Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à...
Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
Salut Jean-François.
Salut Philippe Vincent.
Alors, une autre belle dégelée que le Canadien a mangée hier. Il était pas là en première période.
Incroyable.
Pas là pendant
toute. Incroyable. Honnêtement, à chaque fois que le Canadien en gagne une, on dirait que la fois d'après,
l'espoir
on en
revient.
Mange une. Non, mais c'est... Puis hier, j'avais des échanges sur Twitter avec Alexandre Pratt, qui couvre le sport, là, puis il disait, mon Dieu, vous êtes donc bien les partisans du Canadien. Et on savait quasiment que le Canadien allait perdre contre Washington, mais moi, c'est pas la défaite, c'est la façon.
C'est la façon,
perdre.
Hein, c'est ça.
C'est qu'après, je veux dire, je me mets à la place d'un gars là, qui a travaillé toute la journée, il soupe, débouche sa petite bière, s'installe devant la télé. Avant d'avoir terminé sa bière, la game est finie. Mm. C'est 3-0 pour Washington. Tu sais, c'est qu'il n'y a pas de match. Une défaite hier, mettons, de 4-2 avec un but en filet désert ou tu sais, un 2-1. Bon, oui, on a perdu, mais c'est honorable. Puis on a eu une partie de hockey. C'est que là, quand on perd, puis ça fait plusieurs fois cette année, là, des 5-0, des 6-1. Hier, bon, quelqu'un regarde le résultat, il fait 6-6-3. C'est quand même pas si pire. Mais dans les faits, c'était 6-2. Là, puis il avait déjà arrêté de jouer les Capitals de Washington. Puis c'est là que le Canadien est revenu. Puis on était proche là, finalement au tir au but en bout de ligne quand on regarde ça. Mais c'était une domination totale. Là. Si les Capitals avaient joué le pied dans le tapis toute la rencontre, c'était une affaire de 10-1, cette game-là. C'était horrible. Non, mais c'est vrai. En première période, là, je pense que c'est 14-3 les tirs au but en faveur des Capitals. Tu comprends?
Ça n'a pas de bon sens.
C'est sûr qu'après, c'est la nature humaine. Là. Personne ne veut se blesser. De l'autre bord, tu lèves le pied un petit peu. Puis là, tranquillement, le Canadien revient. C'est pathétique. Je te dirais, le plus pathétique du groupe, c'est Jeff Petrie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Jeff Petrie. Hier, il y a quelqu'un qui a fait une blague sur Twitter qui a dit « Est-ce quelqu'un qui a pensé le débrancher puis le rebrancher parce que visiblement, il est brisé? » On peut-tu juste comme souffler dedans?
Faire la mise à jour, là, ouais.
Faire une mise à jour, Ctrl-Alt-Delete pour le repartir parce que ce gars-là, pareille date l'année passée, on parlait de lui comme un candidat au trophée Norris. Il était dans les meilleurs défenseurs de la Ligue. Et là, il est méconnaissable. Lui, il a coûté les deux premiers buts du Canadien. Sur le premier, là, des Capitals, là,
ouais.
que les Canadiens
contre
ont
Canadien,
accordé.
Ouais.
Lui, là, sur le premier but, il se fait contourner facilement par Nick Dowd, là, qui n'est pas extraordinaire.
C'est pas Ovechkin,
là,
hein?
Non, c'est ça. Et non seulement il se fait contourner, mais en fait, ce que j'aime pas après ça, c'est son langage non-verbal où il fait « Bah, il est passé ». Il essaye même pas d'aller le rejoindre ou se dire d'un coup que mon gardien l'arrête puis qu'il y a un retour. Puis sur le deuxième, il prend la rondelle en fond de territoire. Bon, bataille, gagne sa bataille. Se retourne, donne ça directement dans l'enclave à un joueur des Capitals qui rate le filet. La rondelle va derrière le but, prend une pénalité parce que là, il est obligé de batailler puis il perd sa bataille, prend une pénalité. Les Capitals marquent sur cette pénalité-là. Donc, tu sais, Jeff Petrie qui est supposé être ton numéro un. Et pas beau à voir aller. Dans les bonnes nouvelles, si on peut parler de bonnes nouvelles, Kofi a marqué son premier de la saison.
Bon.
Ce genre de marqueur-là, des fois, quand il en marque un, ça débloque par la suite. Et on va prendre l'exemple de Jake Evans, Arturi Lehkonen et Brendan Gallagher. Le seul trio, à mon avis, qui a vraiment travaillé hier du côté du Canadien. Mais ils ont réussi à marquer deux buts, ce trio-là. Puis un gars comme Lehkonen, qui est pas un grand talent offensif, a quand même 8 points à ses 10 derniers matchs. Fait que ça prouve que lorsqu'on travaille, peu importe le talent qu'on a, on va être capable de tenir au moins l'autre équipe. Là. Puis moi, Brendan Gallagher, ben, il travaille fort, puis il dit de son équipe, on s'est fait surprendre hier, il a dit ça en point de presse, après, on s'est fait surprendre. Tu joues contre Alexander Ovechkin, puis les Capitals, t'es surpris de quoi, là?
Que la game commence? Ou...
t'es surpris que la game commence. Fait que, congé aujourd'hui pour le Canadien, prochain match demain.
Et là, Thanksgiving aux États-Unis, l'action de grâce, ça veut dire qu'il va pas mal avoir du football là, durant la fin de semaine, puis ça commence cet après-midi.
Oui, ça c'est une des belles traditions. Honnêtement, hier, là, je pensais à tout ça puis je me disais un jour, j'aimerais me retrouver dans une famille américaine pour la Thanksgiving. Mmh. Il me semble que tout le monde descend, il y a quelque chose de familial, on mange, on écoute du football. Donc les Bears contre les Lions à 12h30, les Raiders contre les Cowboys à 4h30 et les Bills contre les Saints en soirée à 20h. Et j'étais curieux de savoir où est-ce que ça a commencé. Est-ce que tu sais où ça a commencé? Pourquoi on écoute du football à la Thanksgiving? Parce que le football, c'est le dimanche.
Ouais, d'habitude, mais...
Bon, ben c'est soit dit en passant, les joueurs adorent cette tradition-là. C'est en 1876 que ça a débuté. Des équipes universitaires qui ont eu l'idée de... T'sais, on sait à quel point c'est fort le football universitaire aux États-Unis, qui ont eu l'idée de présenter des matchs. Se sont dit, tout le monde est en congé. Pourquoi on ferait pas des games de football? Ça a bien fonctionné.
Ouais, c'est une bonne idée.
Puis finalement, c'est les Lions, la première fois en 1934, qui se sont dit, si on en faisait un, tu sais, la NFL, puis on le télédiffusait, puis évidemment, ça a été un succès monstre. D'ailleurs, les Lions jouent tous les Thanksgiving depuis 1934. Il y a seulement pendant la guerre qu'on n'a pas joué, mais eux autres reçoivent toujours un match à la maison. Là, c'est une tradition, les Lions sont à la maison et sont à la télé. Et après ça, c'est les Cowboys en 1960 qui ont fait, ben là, gars, les Lions ont du succès, nous autres aussi, on va présenter un match. Et eux autres aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, ils ont toujours une partie à domicile à Dallas et c'est devenu une tradition familiale de cette façon-là. Là, parce que dans le fond, on est en congé, on aime le football, on aime bien manger, on est en famille, il doit y avoir du coltaillage un peu de « moi je prends pour eux autres, moi je prends pour eux autres » et c'est devenu une tradition du côté des États-Unis.
C'est l'ostinage le plus intéressant de famille au lieu de parler de la COVID. D'ailleurs, Green Bay va jouer dimanche après-midi les Packers et le corps arrière Aaron Rodgers qui... non vacciné, qui a eu la COVID, qui nous montre ses pieds pour nous montrer que ça va bien dans sa tête aussi. Là.
En fait, c'est que Pat McAfee, qui a un balado là, qui couvre évidemment la NFL, parce que Aaron Rodgers ne s'entraîne pas trop présentement, joue, mais tu vois qu'il joue pas bien, qu'il y a quelque chose qui le dérange, et lui a affirmé que c'était des effets de la COVID, l'espèce de COVID longue, qu'il n'est pas capable de s'en remettre. Et Aaron Rodgers, qui est plutôt arrogant depuis le début de toute cette histoire-là, d'ailleurs, c'est la réputation qui traînait là, d'être un gars un peu selfish, qui ne pense qu'à lui et tout, mais on le voyait pas sur le terrain, mais dans l'entourage, c'est ce qu'on disait. Là, on commence à comprendre ce qui se passe. Alors, hier, en point de presse, il a affirmé que c'était pas la COVID. Il a enlevé son chausson et il nous a montré ses orteils pour nous montrer qu'il y a un orteil cassé. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'entraîne pas. Il essaie de pas mettre de poids sur son pied dans la semaine. Il joue malgré la douleur, mais évidemment, il joue pas aussi bien.
Parfait,
et que ça avait rien à voir avec la COVID. Donc, il s'en est pris et c'était sa façon de répondre à Pat McAfee.
Bon. Et là, les Nordiques pourraient avoir un nouvel investisseur.
Mais là, depuis que François Legault a lancé ça dans l'univers la semaine dernière, on parle beaucoup du retour des Nordiques et c'est Kevin Dubé dans le Journal de Montréal qui s'est entretenu avec Peter Karmanos, qui est un ancien propriétaire d'équipe. Lui était propriétaire des Hurricanes de la Caroline. Il faisait partie aussi des gouverneurs pendant plusieurs années. Là, il vient de vendre son équipe à Tom Dundon. On le sait, là, c'est celui qui est venu nous chercher Kotkaniemi là, puis qui est en guerre contre le Canadien de Montréal. Bref, lui, c'est un milliardaire, M. Karmanos, et lui serait vraiment intéressé à un retour des Nordiques, serait intéressé à investir avec un groupe d'investisseurs dans cette franchise-là. Dit qu'il n'y a pas un plus beau marché que Québec présentement. Que bon, il y a des partisans de hockey, que l'amphithéâtre est fantastique, que la ville est belle. Et lui, serait très intéressé à participer à ça. Par contre, il n'y a aucun pourparler. Et selon lui, ça va passer par une expansion ou rien. Il y en a plusieurs qui disent là, qu'il y a des marchés où ça va moins bien puis qu'il pourrait y avoir un déménagement. Lui, il ne croit pas à ça. Il pense que Gary Bettman a placé des équipes partout pour les marchés de télé et qu'il n'y en a aucune qui va bouger, qu'à la place, on va les aider. Lui pense plutôt que ça va passer par l'expansion et que malheureusement, on serait pas prêt du côté de la Ligue nationale de hockey à tout de suite rentrer d'autres équipes. Il y a les Nordiques qui sont intéressés et il y a aussi Houston. Ça fait longtemps que Houston voudrait une équipe aussi de ce côté-là. Puis il y a un autre milliardaire qui serait intéressé à investir par là-bas. Mais bon, au moins, il y a du monde intéressé au hockey, des gens qui ont déjà été dans le giron parce qu'on sait que c'est un cercle fermé, là, les gens de hockey. C'est une petite gang. Ça prend de l'argent, mais ça prend des contacts aussi. Alors, vous pouvez lire ça, c'est dans le Journal de Montréal ce matin.
Et là, un petit mot rapide sur Guy Lafleur. Ça va pas bien, là.
Ben, en fait, ce qui laisse présager que ça va pas bien, c'est que Martin Lafleur, son fils, était à JC hier et il a donné des nouvelles de son père. Puis bon, Guy Lafleur, depuis le début de sa maladie, je devrais dire ses maladies, parce que là, ça se succède, vient quand même en onde donner lui-même des nouvelles, ne serait-ce que par téléphone. Et là, c'est son fils qui en donne, ce qui laisse présager qu'il est en plein traitement, puis on sait ce que ça fait au visage, aux cheveux, ouais, etc., là, à la fatigue, ce genre de traitement-là. Et il a affirmé que son père avait des hauts et des bas, que c'était pas toujours facile, mais que c'était un battant, puis qu'il ne lâchait pas. Alors, nos pensées avec Guy Lafleur, évidemment, dans son combat contre le cancer.
Merci, Jean-François.
À demain.
Salut.